Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio tôt le matin ou en ligne quand vous voulez, l'actualité de la culture tous les jours de la semaine et chaque mercredi, c'est l'actu ciné. Aujourd'hui, mercredi 13 novembre, sort le dernier et très attendu film de Roman Polanski, J'accuse, sur l'affaire Dreyfus. Film attendu pour son sujet historique, c'est l'accusation d'un innocent sur fond d'antisémitisme virulent sous la Troisième République. Film attendu aussi parce qu'il a été unanimement salué lors de sa première projection publique à la Mostra de Venise, où il a obtenu le Lion d'Argent ainsi que le prix de la FEPRICI, la Fédération des critiques du cinéma du monde entier. J'accuse est aussi attendu parce que son auteur, grand parmi les grands cinéastes, aujourd'hui âgé de 86 ans, est une nouvelle fois de plus accusé de viol. De nouvelles accusations ont été rendues publiques quelques jours donc avant la sortie de son dernier film. Du coup, peut-on voir le film de l'artiste Polanski, J'accuse, sans penser à l'homme Roman Polanski? Au même moment, c'est-à-dire aujourd'hui même, sort dans quelques salles d'art et d'essai un long documentaire instructif, important et à bien des égards édifiant. « Rendre justice » de Robert Salis est un film qui donne la parole aux juges, aux magistrats des différentes cours, différentes juridictions, ces hommes et ces femmes qui rendent la justice au quotidien. De l'affaire Dreyfus à nos jours, le métier de juger est au centre des deux films. Rendre justice a bien sûr des résonances avec le sujet et l'auteur du film J'accuse. Notre invité principal est Robert Salis, il est déjà avec nous. Également présent avec nous ce matin, Michel Simon du magazine Positif, en grand défenseur de Roman Polanski et de son film.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bien sûr que ça fait peur la justice et je comprends que ça fasse peur. On est terrorisé quand on vient devant la justice, à tout le moins très impressionné. On ne sait pas ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. C'est une grosse machine devant laquelle on vient dans des circonstances toujours difficiles, qui traite une multitude de dossiers, qui a des instruments puissants, voire brutaux, qui peut tout d'un coup, briser une vie sans même, sur le moment, en avoir conscience. Les gens qui viennent devant la justice apportent la dentelle de leur vie. Et la justice, elle répond souvent avec une presse hydraulique. Elle a, c'est vrai, des sortes de délicatesse de 35 tonnes qui se gardent dans un magasin de vaisselle. Mais c'est pas de la mauvaise volonté. C'est en réalité un traitement complexe d'affaires complexes. Et c'est la rencontre assez rugueuse entre des sensibilités qui accompagnent des problèmes individuels, souvent douloureux, et une grosse machine qui est destinée à les traiter. La grosse machine qui rencontre les drames individuels, elle est souvent un peu lourde dans ses effets, dans ses conséquences.
Voilà, on vient d'entendre André Potocki, donc qui est juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est ainsi, avec ce propos très lourd, que s'ouvre votre film « Rendre la justice ». Robert Salis, bonjour.
Bonjour. Oui, c'était le but de montrer le fonctionnement de la justice uniquement à travers les magistrats. Donc, dans le film, c'est pour ça que le titre c'est « Rendre la justice », parce que ce sont les magistrats qui rendent la justice. Et il n'y a pas dans le film ni de justiciable ni d'avocat. C'est parce que le film, pour moi, se présente comme une réflexion sur l'acte de juger. Donc, ce sont des magistrats hommes et femmes et que on connaît très peu en général, à part François Molins qui a fait malheureusement l'actualité avec les attentats.
Oui, parce que vous avez décidé de vous adresser à toutes les juridictions, hein, c'est-à-dire aussi bien les juges pour enfants que les juges chargés des affaires de terrorisme, que on vient d'entendre d'ailleurs, que pour la Cour européenne des droits de l'homme.
Oui, l'idée c'était de montrer, parce que quand on parle de justice, on pense beaucoup à la justice pénale, mais en fait, la justice civile, elle est hyper importante puisqu'elle traite des deux tiers des procédures. En fait, la justice civile, c'est celle qui tranche les conflits entre les particuliers. tandis que la pénale, ça sanctionne des infractions à la loi. Et très souvent, on oublie cette justice civile. C'est pour ça que c'est important de la montrer, notamment...
Et de faire parler ceux qui, donc, l'incarnent.
Ils l'incarnent, mais en même temps, ils la rendent au quotidien. Alors, c'est une grande difficulté que d'être juge, parce que passer son temps à prendre des décisions et à juger les autres, c'est vraiment pas une fonction évidente. Donc, en plus, ça amène une question de pouvoir aussi. Et donc, si...
Comment on gère ce pouvoir?
Si procure une jouissance, c'est là où il y a un dérapage très vite. C'est ce que dit un des magistrats dans le film. Et c'est vrai qu'il y a des juges qui peuvent, même inconsciemment ou consciemment, avoir une jouissance du pouvoir. Donc, c'est vrai que les pouvoirs qu'ils ont sont énormes. Ils peuvent mettre en examen, incarcérer, tout ce que l'opinion publique connaît. Mais le problème avec la justice, c'est que soit on n'a jamais eu affaire à la justice et on en a peur et donc il vaut mieux pas trop s'en approcher, soit lorsqu'on est pris dans l'engrenage, c'est terrible parce que qu'on soit innocent, vous connaissez le dicton, innocent ou coupable, quand on est pris dans l'engrenage, c'est du pareil au même en fait.
Donnez la parole à ceux qui rendent la justice, c'est ce que vous faites dans ce documentaire qui sort dans quelques salles de cinéma aujourd'hui. Robert Salis, quelles sont les questions que vous avez posées à ces magistrats, à ces juges, parce que bien entendu, vous les avez enlevés au montage, donc on a un accès direct à la parole de ceux qui rendent la justice. Mais est-ce que les questions que vous leur posiez, c'était des questions qu'on se pose tout le temps, c'est-à-dire est-ce que la justice est équitable? Est-ce que vous avez connu des erreurs judiciaires préjudiciables? Est-ce que votre métier est un métier qui nécessite plus de moyens ou pas? Parce que là, on a tous les propos.
Oui. L'important, c'était... les magistrats sont des hommes de loi, en fait. Et donc, ils font appliquer la loi et le droit. Mais on oublie trop souvent qu'ils ont aussi des devoirs. Et il y en a qui oublient un petit peu la notion de devoir. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de mettre en parallèle et le droit et le devoir. Et donc, là où les magistrats ont été vraiment enjoué le jeu, c'est que ils ont un peu oublié leur devoir de réserve, parce que normalement, ils parlent pas aussi facilement.
Comment vous avez fait, justement, pour les faire parler?
Alors, disons qu'il a fallu un petit peu les apprivoiser. J'ai eu la chance d'écrire le film avec un magistrat lui-même, qui m'en a présenté plusieurs.
Qui était un peu la caution, lui-même,
il est président de la cour d'assises, il exerce cette fonction très très difficile, qui est de bon. Ça va très vite, hein. Vous pouvez très bien avoir des prévenus qui prennent 10 ans, 15 ans de prison. Moi, personnellement, je pourrais pas faire exercer une fonction pareille parce que c'est vraiment très difficile. Et ce dont on s'aperçoit dans le film, c'est que effectivement, il faut savoir écouter. Et le film aussi, il faut avoir envie d'écouter parce que c'est un film de parole. Et donc, j'ai voulu donner la première place à la parole. Alors les questions, on leur a posé des questions un peu type à chacun. Mmh. Mais l'idée, c'était de faire en sorte que ce soit des conversations à bâton rompu.
Ils avaient un droit de regard sur le montage final du film?
Non, pas du tout. Et là, lorsqu'on a montré le film qui était sélectionné au Festival d'Angoulême, j'ai eu le plus beau compliment qu'on puisse me faire par une magistrate. Donc, c'est celle qui n'a pas la langue de bois plus que les autres dans le film. C'est Fabienne Ciré-Desgarnier. Elle m'a dit, j'ai souvent été interviewée, beaucoup, et d'habitude, je reconnais pas mes propos. Et là, j'ai absolument jamais été trahi. Et ça, c'est le plus beau compliment. Et les autres.
Alors, je sais pas si c'est un beau compliment, mais en tout cas, ce qu'elle raconte dans votre film, et elle termine d'ailleurs votre film en donnant sa propre définition de la justice, surtout en nous prodiguant un conseil qui nous laisse, seulement qu'on puisse dire, dubitatif.
Je conseille à toute personne, si elle a le choix, d'éviter l'institution judiciaire, bien sûr. Ça peut paraître paradoxal, mais pour moi, l'institution judiciaire, je parlerai du pénal, hein, bien sûr. Donc là, on n'a pas le choix, donc la question ne se pose pas. Mais au civil, des divorces, des successions, des litiges entre individus pour des histoires de copropriété, enfin voilà, qui rendent les gens fous au sens propre du terme. Oui, je pense qu'ils auraient dû réfléchir à deux fois avant de saisir la justice, bien sûr. Mais là, ça échappe au juge, je dirais. C'est véritablement quasi philosophique. C'est le rôle même de la justice qui est en cause. C'est pas tant le juge lui-même.
Quand on entend ce genre de discours, et là c'était Fabienne Sirdé-Garnier, donc la présidente de la chambre correctionnelle à Paris, hein, c'est le tribunal.
Oui, mais maintenant elle a été, si j'ose dire, un peu promue. Elle est vice-présidente de l'autorité de la concurrence. Donc c'est l'autorité qui régule les marchés, les grands groupes, et donc.
Mais la conclusion de votre film Rendre la justice, c'est donc cette présidente qui nous dit si vous pouvez éviter la justice, s'il vous plaît, faites-le. Parce que une fois que vous êtes dedans, l'engrenage, on ne sait pas où il va nous mener. Et elle s'inclut dans cet engrenage infernal de la justice en France.
C'est pas la seule en plus.
Oui, c'est pas la seule.
Ils le disent tous. Et bon, la particularité que j'ai voulu mettre en avant dans le film, c'est que nous sommes tous des justiciables potentiels. Il suffit que quelqu'un vous dénonce, il suffit que y ait quelqu'un de malveillant qui vous veut du mal, ou alors que vous êtes pris involontairement dans un accident, vous êtes tout à fait dans la machine judiciaire. Et là, vous en connaissez ni les codes, vous perdez tous vos repères, vous avez absolument plus la notion du temps, parce que la justice en sait. On ne sait pas combien ça va durer. Il y a des procédures qui peuvent s'éterniser des années. Et donc, c'est très, très douloureux d'avoir affaire à la justice. Même si vous sortez, vous gagnez votre procédure, il y a toujours une frustration qui reste en vous, parce que l'énergie que vous avez dépensée, le temps, l'argent, par rapport aux résultats, c'est vraiment malgré tout très frustrant.
Rendre la justice, c'est le titre de votre film. Alors non seulement vous allez à la rencontre des juges, à la rencontre de ceux qui effectivement ont le pouvoir de rendre la justice, mais pas seulement, puisque vous allez aussi voir comment on forme les juges de demain, d'ailleurs avec une histoire sur la parité qui est, on ne peut plus, incongrue, parce que vous prenez tout le monde à contre-pied. Dans votre film, on apprend qu'il y a de plus en plus de filles qui font ces études pour devenir magistrat, et que ça risque d'être mal perçu, que si dans quelques années il y a 80% des juges qui sont des femmes, peut-être que c'est pas bien, alors que ça fait à peine 70 ans que les femmes ont droit d'exercer ce genre de métier. Aujourd'hui, c'est 64%, je crois. C'est ce que vous nous dites dans le film.
Oui. Donc, c'est vrai qu'à l'École nationale de la magistrature, il y a beaucoup plus de filles, et dans les facs de droit aussi. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui veulent embrasser la carrière judiciaire, même au niveau des avocats aussi. De toute façon, ça se voit dans les tribunaux. Il y a beaucoup plus de femmes juges et de femmes avocates. Et c'est vrai qu'en matière familiale, par exemple, surtout
les affaires de divorce et de garde d'enfants. Ouais.
Voilà, le père du couple peut se sentir un petit peu lésé et avoir l'idée que...
Et c'est juste une impression, disent justement les magistrats, c'est juste une impression parce que, qu'on soit magistrat ou magistrate, on applique les mêmes règles, la même loi, du moins théoriquement.
Oui, mais moi j'aurais pu appeler le film ça dépend du juge, parce que en matière civile c'est beaucoup des audiences à juge unique, donc selon le juge sur lequel vous tombez, en fonction de malgré tout ils doivent appliquer la loi, mais en fonction de leur qualité d'écoute, de la façon d'appréhender les choses, d'appréhender le dossier, pour une même affaire, d'un endroit à l'autre, ça peut varier vraiment beaucoup.
Votre film, Robert Salis, sort en même temps que le film très attendu de Polanski sur l'affaire Dreyfus, J'accuse. Alors ça nous permet effectivement de faire une comparaison, de voir si la justice française a évolué depuis cette affaire. Michel Simon est avec nous ce matin. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors vous avez vu les deux films avant d'arriver au J'accuse de Polanski. Vous vouliez dire quelque chose sur le film de notre invité Robert Salis. Rendre la justice.
Je voudrais poser une question dans le contexte d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le film est passionnant et les témoignages d'abord d'une grande intelligence et d'une grande modération de la part de la plupart des juges qui disent effectivement que tout le monde commet des erreurs judiciaires, que remettre en cause sa propre certitude, toutes ces choses sont très belles. Mais dans le cinéma américain classique, Autopsie d'un meurtre, 12 hommes en colère, ça montre toutes les carences de la justice en Amérique, mais ça se termine tout de même bien par ce fameux happy end. Et je me demande si c'est pas finalement une meilleure mesure de sécurité, parce que nous sommes dans une époque aujourd'hui d'un tel populisme où on conteste absolument tout, c'est-à-dire les hommes politiques sont tous des lamentables, les juges sont en dessous de tout, etc. Ça encourage les gens vers cette idée de se venger eux-mêmes, que de protester contre tout, c'est-à-dire ne plus croire en rien, ce qui est tout de même très dangereux, parce que ça peut amener dans d'autres périodes, on a vu ce que ça amenait, ça amène vraiment le fascisme, ça amène la dictature. Et je me demande si il n'y aurait pas eu une façon tout de même de rééquilibrer un petit peu le discours. Comment vous avez choisi ces gens que vous interviewez?
Je suis tout à fait sensible à ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Seulement, dans le film, le fait de voir ces magistrats qui sont tous très très humains et donc qui ont une grande humilité, ça montre qu'il faut malgré tout, quels que soient les dérapages qui puissent arriver, avoir confiance en la justice. Sauf que il faut faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de garde-fous pour pas arriver à ces dérapages et à ces erreurs judiciaires. Parce qu'il y en a, ils le cachent pas.
Et donc, mais ils n'ont pas les moyens d'avoir ces garde-fous, ils vous le disent aussi.
Oui, et donc pour moi, s'il y avait une façon d'améliorer la justice, ça serait à la fois des moyens, mais aussi un changement d'état d'esprit. Et donc au niveau de la formation, c'est pour ça qu'à l'École nationale de la magistrature, de plus en plus, la formation évolue vers le fait de contrôler le mental, si j'ose dire, des candidats magistrats, en fait. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que les films américains, ça se termine un peu avec happy end, mais il faut bien dire que la justice américaine, elle est à mille lieues du fonctionnement de la justice française. Donc, aux États-Unis et même en Angleterre, la justice anglo-saxonne, les juges sont élus d'abord, et en fait, le pouvoir de l'argent est immense. Donc, si vous avez de l'argent, vous pouvez vous en sortir. Le petit jeune d'une banlieue des États-Unis qui a rien, il est foutu en prison vite fait.
Bon, ça se passe à peu près aussi, la même chose ici aussi, en France. C'est ce que vous dit Fabienne.
Il y a tout de même une juge.
Garnier, ouais.
Il y a une juge noire qui travaille aux affaires familiales qui dit qu'en Amérique, il y a des juges noirs. C'est-à-dire, on voit très peu de juges noirs.
Oui, tout à fait.
Enfin, ceci dit, l'exemple que vous donnez avec ce jeune français d'origine maghrébine qui se retrouve dans un tribunal populaire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très très mal à l'aise quand il rencontre les justiciables. Surtout quand les justiciables sont issus, comme lui, de cette culture française de banlieue d'origine immigrée. Quoi.
Alors figurez-vous, lui c'est Youssef Badr, on l'a filmé, il était encore procureur, et quelques mois après, il a été nommé porte-parole de la ministre de la Justice. Donc, et il avait un poste très important, maintenant il est à l'école de la magistrature en charge de la formation. Mais ça l'a beaucoup marqué, effectivement, en tant que juge d'origine marocaine, d'être pris à partie, de considérer comme traître par des petits jeunes de banlieue qu'il avait devant lui. Et ce qu'il dit, c'est vraiment très juste, parce que il dit on a tendance à les juger de façon sur des préjugés, mais quand on est dans cet engrenage-là de l'argent facile, c'est pas si facile justement de s'en sortir, parce que bon, quelle issue il y a pour ces jeunes de banlieue aussi, et ça, il a pas peur de le dire.
Voilà, et votre film, il sort en même temps que ce film de Roman Polanski, J'accuse.
Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison.
La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres.
Vous êtes désormais responsable du renseignement.
Colonel.
Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée.
Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres.
Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus.
Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même.
Avant d'avoir l'avis de Michel Simon, du magazine Positif, qui a aimé le film, hein, pas de suspense, il a aimé le dernier film de Roman Polanski, je voudrais avoir votre avis, Robert Salis. Le fait que votre documentaire qui parle du fonctionnement de la justice en France aujourd'hui sorte en même temps que le J'accuse, qui nous renvoie à l'époque de l'affaire Dreyfus, la question c'est, est-ce que la justice a évolué depuis ?
Dans la façon d'être rendue, elle a forcément évolué. Dans J'accuse, c'est pas vraiment la justice, puisque c'est une justice militaire, ce qui est quand même assez différent. Donc, avec un tribunal militaire. Donc, il y avait une très forte ambiance d'antisémitisme à cette époque. Donc, l'affaire Dreyfus est vite devenue une histoire. Vraiment, elle a divisé la France en deux clans sur fond d'antisémitisme. Mais il y a quand même encore aujourd'hui, et on ne le cache pas dans le film, les juges ne le cachent pas, il peut y avoir des injustices. De toute façon, très récemment, avec l'affaire Doutreau, on a bien vu à quel point c'était compliqué. Et d'ailleurs, cette affaire Doutreau a fait un peu un électrochoc, puisque à la suite de ça, ils ont amélioré les conditions d'entrée à l'école. Et ils ont développé, par exemple, maintenant à l'école de la magistrature, vous avez un examen pour savoir si votre moralité, quand même, elle risque pas. Si psychologiquement vous êtes apte à exercer, parce que il y a des personnes, comme dans toutes les professions de toute façon, s'il y a des personnes qui risquent de déraper, il vaut mieux les prévenir avant. Hein.
Michel Simon, alors ce film de Polanski, J'accuse, c'est le titre, c'est bien sûr son récit de l'affaire Dreyfus, on sait que ce film est très attendu, mais pas seulement pour des raisons cinéphiliques, c'est pour d'autres raisons, mais si on doit parler juste du film.
Écoutez, d'abord, Positif a décidé de faire un dossier sur les cinéastes qui étaient très connus, respectés dans le monde entier dans les années 60 et qui, 50 ou 60 ans plus tard, sont toujours en vedette dans l'actualité. On n'en parle pas dans la presse. La couverture, c'est le film de Bellocchio, où il y a un procès d'ailleurs extraordinairement bien filmé. Bellocchio était très connu dans les années 60, comme Costa Gavras, comme Ken Loach, comme Polanski. Et tous ces gens-là sont dans l'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a ces témoignages de vitalité extraordinaire. Alors, peut-être parce que on est dans une époque de jeunisme, on ne peut pas admettre que des gens qui ont plus de 80 ans, entre 80 et 90 ans, ont conservé une extraordinaire jeunesse, une extraordinaire audace. Et évidemment, Polanski est la preuve, avec Bellocchio peut-être, la plus éclatante. Il y a aussi Ken Loach, hein, mais de cette vitalité. Alors, d'abord, je crois qu'il y a un malentendu sur Polanski. Moi, je pense que Polanski a toujours été un classique. Il est arrivé en même temps que la Nouvelle Vague, donc on l'a associé à Godard ou à René, ça n'a aucun rapport. Polanski a toujours admiré le grand cinéma américain classique, le grand cinéma anglais, David Lean, Carol Reed, etc., Laurence Olivier. Il accorde une importance exceptionnelle au scénario, à la qualité des comédiens, à la photo, etc. C'est-à-dire c'est un cinéaste complet. C'est pour ça qu'il est tellement admiré aux États-Unis. Et je trouve que ce film, c'est la démonstration, c'est presque un mécanisme à la Fritz Lang. C'est un film d'une rigueur absolue, c'est-à-dire la contre-expertise de Picard, parce que c'est pas un film sur Dreyfus. D'ailleurs, Dreyfus est présenté comme un personnage assez médiocre. Quand Picard l'a sauvé, il lui dit même pas merci. Il lui dit « Vous avez fait votre travail ». Il n'est pas reconnaissant, alors que l'autre a fait de la prison pour sauver Dreyfus. Donc c'est pas un éloge de Dreyfus, c'est un éloge de la justice. Un éloge d'un homme qui, antisémite au départ, s'est mis du côté du juif qui est injustement accusé. Et je pense que c'est un film assez magistral, et qui est dans cette grande tradition de Polanski, comme Chinatown, comme Le Pianiste. C'est une œuvre classique. Et alors on va peut-être, certains vont dire, mais pas vraiment beaucoup, parce que le film est formidablement bien accueilli, on va dire académique, mais ça veut rien dire. L'académisme est autant les imitateurs des frères Dardenne qui courent après quelqu'un et qui filment le dos du personnage principal pendant une heure et demie avec une caméra qui tremble.
Et on va pas y échapper à la fameuse question de l'actualité de Roman Polanski. Est-ce qu'il a fait ce film sur la justice, sur les mécanismes de la justice, pour aussi parler et répondre de tout ce dont on l'accuse?
Non, je pense pas. Je pense que c'est un faux débat, comme beaucoup de choses qui s'écrivent dans la presse aujourd'hui. C'est un faux débat. C'est pas une autodéfense. Il n'a pas l'audace de se comparer à Dreyfus. Polanski a reconnu sa culpabilité. Il a fait de la prison. Il a reconnu ses crimes. Et le comparer à Harvey Weinstein, c'est complètement stupide. Et comparer avec Woody Allen, c'est également stupide, puisque Woody Allen, lui, a été proclamé innocent par la justice, par les médecins, par son fils, etc. Et donc, dans le cas de Woody Allen, c'est quelqu'un qui est reconnu coupable par tous les journaux alors qu'il n'a aucune culpabilité démontrée, sauf la haine que lui donne sa femme.
Alors, autrement posé,
Polanski, lui, ouais, s'est déclaré coupable. Donc, on mélange tout. On est dans une époque d'amalgame où tout le monde devient juge. Tout le monde, maintenant, est un procureur. Et tout le monde dénonce tout le monde.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Le J'accuse de Roman Polanski sort aujourd'hui au cinéma et en même temps, dans quelques salles, le documentaire de mon invité ce matin, Robert Salis, Rendre la justice. Merci beaucoup d'être passé ce matin.
Merci.
Merci Michel Simon. Je rappelle que la couverture de Positif est consacrée bien sûr au film, un autre film concernant la justice en Italie, extrait du film de Marco Bellocchio, Le Traître.
Du formidable interprète Pier Francesco Favino. Et puis bien sûr, aussi on recommande un magnifique film d'animation, J'ai perdu mon corps, de Jérémie Clapin, et Les Misérables, de Lady Lee, premier film français.
De Ladj Ly, oui, le film de Ladj Ly, voilà. Qui va sortir bientôt, on va bien sûr en parler.
Qui a eu un prix du jury au Festival de Cannes.
Très mérité, sur France Culture. Merci Michel. Et bonne journée, on se retrouve demain.